Oui, Véronique de Dordogne. Un message pour mon papa, que je suis impuissante face au combat qui est là-haut à Dunkerque, qui avec deux de ses potes, anciens dockers, font une grève de la faim à l'église Saint-Éloi à Dunkerque pour 120 recalculés de l'amiante. Voilà, la loi et l'enveloppe ont été votées, mais ils n'ont pas tout perçu. Et Daniel, peut-être qu'il faudrait interviewer ces petits isolés qui se battent. Message aussi pour les collectifs de l'amiante en France. Il faut téléphoner à l'UMC de Dunkerque pour dire qu'ils laissent crever des hommes en demande d'une justice à rendre. Voilà, c'était le message d'une fille qui en a marre de voir son père se battre alors qu'il a 58 ans et qui s'est battu toute sa vie pour des acquis sociaux et qui maintenant à la retraite à cause de l'amiante met sa santé en jeu. Voilà, je suis fière et je voudrais qu'on les soutienne, aidez-les pour que leur combat soit rapide.
Donc voilà, je viens encore d'entendre un message disant « Je suis jeune, je suis européen, donc... » Je vote oui. Alors moi, je viens d'avoir 18 ans, je vais voter. Je suis jeune, je suis européenne, donc je vais voter non. Voilà.
Oui, on vote oui, parce qu'on n'est pas des abrutis. Oui, oui, oui.
Voilà, moi j'ai 72 ans. Je voulais vous faire part d'une lettre que j'ai envoyée aux responsables socialistes à Paris, aussi à Politis et d'autres journaux. Voilà. Alors je dis, je suis réellement écœurée de constater avec quel empressement les dirigeants socialistes défendent le oui. Moi qui suis au minimum vieillesse, 600 euros mensuels, je me dis que si avec autant d'ardeur, de hargne, ces élus défendaient notre niveau de vie, nous ne serions pas à ce jour 1 million de RMI, 600 000 personnes âgées, etc. Alors, je dis, vous savez également que le responsable de cette situation, c'est l'Europe de Maastricht, que les socialistes ont appelé de leur vœu. Mitterrand en 82 à Copenhague, l'Europe sera sociale ou ne sera pas. 10 ans plus tard, Delors expliquait que l'Union avait jusqu'alors concentré ses efforts sur le grand marché, mais que la Commission européenne, avec Maastricht, on allait enfin aborder la dite Europe sociale. C'était en 92, Martine Aubry, elle nous dit l'Europe sera plus d'emploi, plus de protection sociale et moins d'exclusion. En 2004, le Parti Socialiste mettait sa campagne en vue d'élections européennes sous le thème « Et maintenant l'Europe sociale ». Jospin, qui est allé à Vilvoorde pour défendre les ouvriers dont l'usine allait fermer, leur avait dit « Si je suis élu, l'usine ne fermera pas ». 15 jours après être élu Premier ministre, l'usine est bien fermée. Le menteur qui a plus privatisé que Juppé et Balladur réunis, il dit que la France sera isolée. C'est tout à fait le contraire. Les gens comptent sur nous pour les défendre. Voilà.
Raffarin, c'est bien. Alors, je vote oui. Le MEDEF me donne la pêche. Je vote oui. Depuis l'euro, mon salaire a mis le turbo. Je gagne beaucoup trop. Je vote oui. La Sécu me rembourse de plus en plus. Je vote oui. Ah non, là j'avais mal vu, mais je vote oui quand même. Maintenant, je travaille des jours de fête. Je vote oui. En ce moment, c'est le printemps. Il est pourri. Je vote oui.
Bonjour Daniel et bonjour à toute la France. Je suis une Américaine résidente depuis 12 ans dans votre bel pays. En novembre dernier, j'ai vécu un énorme échec pour mon pays quand M. Bush a été réélu. Le Parti républicain a mené une campagne qui travaillait surtout sur la culpabilité et les peurs du peuple. Il me semble que M. Chirac et les partisans du oui pour le traité européen ont retenu la leçon de M. Bush. Ils veulent vous faire voter oui en vous culpabilisant. Ils ont tort. On peut bien être pour l'Europe et contre cette constitution. Après des années de se comporter comme si sa réélection tenait de sa popularité et pas pour faire face au Front National, M. Chirac essaye de vous faire peur en vous demandant si vous voulez renégocier le traité dans l'esprit du FN. C'est exactement ce que M. Bush a fait quand il a lié John Kerry aux valeurs ultralibéraux. C'est une chasse aux sorcières. Déculpabilisez-vous, ne vous laissez pas être intimidé. L'Europe doit être autre chose qu'une machine à fric. Votez pour les vraies valeurs de votre République. Liberté, égalité, fraternité. Ces mots se trouvent trop peu dans le traité. Votez non, non et encore non. Grosse bise de Thierry en Gironde. Au revoir.
Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui voteront le 29 mai. Je voudrais lancer un message à ceux qui voteront oui. Faites comme moi. Sur ma boîte aux lettres, bien en évidence, j'ai collé un papillon. Moi, je vote oui à la Constitution. N'ayez pas peur d'exprimer votre opinion publiquement. Si quelqu'un me demandera pourquoi je vote oui, je lui expliquerai qu'il s'agit d'une avancée certaine et que je veux une France plus forte dans l'Europe. Collez tous un papillon oui sur votre boîte aux lettres. Montrez à tout le monde que les partisans du oui sont nombreux. C'était un message de Eliane de Rivesaltes, là où on fait du bon vin et du bon muscat. À bientôt.
Salut, c'est Arnelle de Lille. Je voulais remercier toute l'équipe pour l'émission donc d'hier avec une belle leçon de délocalisation avec l'exemple du transport. Je comprends mieux pourquoi depuis quelques mois, il y a de plus en plus de camions polonais et tchèques sur l'autoroute 1 que j'emprunte tous les jours. Donc ici, dans le Nord, eh bien, comme il y a beaucoup de sociétés de transport, ça craint encore. Et puis, je tiens à dire que Altati se ferme, c'est tranché, donc encore 546 licenciements en perspective. Alors franchement, la faute à qui ? Aux nouveaux pays entrants, là, qui font du dumping social ? La faute aux patrons qui en profitent ? Bon, moi, je me dis que si on était à leur place, on ferait peut-être pareil, hein, peut-être. Non, moi, ce que j'accuse, c'est le système capitaliste néolibéral. Et dire oui à un traité qui prône ce tel système, eh bien, moi, je ne peux pas. Quand je lis dans le traité l'école obligatoire gratuite, eh bien, je me pose des questions sur nos petites écoles maternelles françaises. Quand je lis que la politique d'agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, je me dis que le bio n'est pas là d'être la norme standard pour nous Européens. Quand je lis « droit de travailler », je me dis que les plans sociaux qui proposent un reclassement en Roumanie avec un salaire à 110 euros par mois ont de beaux jours devant eux. Alors franchement, les gens de gauche qui prêchent le oui, je ne les comprends mais vraiment pas. Les hommes et les femmes politiques de gauche, bon, qui disent oui et qui sont socialistes, j'arrive à les comprendre parce que je me dis que s'ils arrivent au pouvoir en 2007, ils vont pouvoir continuer à litiger les services publics en disant « c'est la faute à Bruxelles ».
Bonjour, je suis polonaise et quand j'ai entendu que la Constitution, les choses les plus importantes sont votées à unanimité, j'ai dit non. Il y avait une Constitution polonaise au XVIIIe siècle, la première en Europe, peu les gens le savent, avec unanimité. Ceux qui en ont profité, ce sont des requins. Ça veut dire, comment dirais-je, la Prusse et la Russie. La Pologne, deux ans après, n'a plus existé. Si on regarde le traité, tout ce qui concerne le côté financier s'est voté à unanimité. J'ai rien contre les plombiers polonais, je suis polonaise, mais je vote non pour que les plombiers polonais puissent avoir des conditions semblables ou rapprochées des pays développés. Voilà. Merci Sophie D'Antoni.
Et voilà, et ça continue comme ça sur l'europondeur de là-bas si j'y suis. Des quantités de messages sur ce référendum de dimanche prochain. On va continuer aujourd'hui la balade dans la France profonde. Et avec Olivia Gesbert et François Ruffin, on va aller au marché. On parle de l'ouverture des marchés. Il y a eu une ouverture des marchés, mais sur les marchés du dimanche matin, du vendredi matin. Et on va aller dans trois marchés en France. L'un à Guingamp, en Bretagne, l'autre à Maubeuge, dans le Nord, et l'autre à Montreuil, près de Paris. Voilà les rumeurs, qu'est-ce qui se dit sur ces marchés, qu'est-ce qui s'est dit ces jours derniers, qu'est-ce qui se dit en ce moment autour des distributeurs de tracts. Il y a eu une distribution massive, ça continue évidemment, de tracts. Essayons de nous faire l'écho de cette effervescence. Et en attendant le déluge, puisque dimanche soir, si par malheur la France pourrie disait non, eh bien aussitôt, vous le savez, les loups envahiront Paris. Alors en attendant cette échéance terrible, Il y a un moyen de se détendre, c'est de venir ce soir même au théâtre de Jazet à partir de 20h où nous ferons le procès de Nicolas Sarkozy. Histoire de changer un petit peu. Alors je précise, parce que c'était pas clair peut-être dans tous les esprits, c'est un procès pour rire, c'est pas un procès pour de vrai, c'est un procès pour rire avec des dessinateurs. Il y aura peut-être des vrais avocats, mais il y aura aussi évidemment de faux témoins. En tous les cas, il y aura un verdict absolument juste. Donc c'est à 20h, à partir de 20h au Théâtre de Jazet. Le Théâtre de Jazet à Paris, c'est au 41 boulevard du Temple, dans le 3e au métro République. Et si vous voulez retenir votre place, tout de suite réservé, c'est au 01 48 87 52 55. 01 48 87 52 55. Donc on va au marché auparavant. D'autres messages sur le répondeur, l'europondeur de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Bonjour. À l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire du programme du Conseil national de la résistance, adopté dans la clandestinité le 15 mars 1944, 13 résistants dès la première heure ont lancé un appel aux jeunes générations pour que la flamme de la résistance ne s'éteigne jamais. Cet appel a été refusé à la publication par les médias dominants. En réaction à ce refus, notre collectif Alternative Images a filmé et mis en ligne cet appel. Vous pouvez voir et entendre Lise London, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, Philippe Deschartres, Stéphane Hessel, Maurice Krigel-Valrimont, Georges Segui, Maurice Voutet, sur le site internet www.alternative-image.net. Je répète, www.alternative-image.net. Ce film court sera également projeté dans le cadre du dernier Jeudi du Nom à l'espace Saint-Michel à Paris. Place Saint-Michel, jeudi 26 mai à 19h30. Amitié à tous.
Bonjour Daniel et bonjour aux auditeurs d'Inter et de là-bas si j'y suis. Originaire du Maroc, j'ai choisi par un acte volontaire il y a de cela près de 20 ans d'être pleinement citoyen de ce pays, la France, pays des droits de l'homme et de la citoyenneté. À ce titre, je suis profondément choqué par les propos du Premier ministre rapportés par l'UMA de ce lundi 23 mai. Jean-Pierre Raffarin a dit vendredi dernier « Un nom qui s'abstient est un bon nom. Un vote oui est un vote, un bon vote. » Autrement dit, si vous avez l'intention de voter non au traité constitutionnel ultralibéral de Giscard, le Premier ministre de la France vous invite à l'abstention. C'est une première, un chef du gouvernement qui appelle à l'abstention sur un référendum qu'il organise. Il devrait être déchu de tous ses mandats électifs, tant en Poitou qu'ailleurs. Salut, c'était Luz de Brest.
Ouais, salut Daniel, salut à tous. Pourquoi qu'on vous dit, pourquoi qu'on vote non? Ben moi j'avais envie de vous dire pourquoi. Au-delà du traité pour lequel je n'ai absolument aucune affinité, je voterai non, c'est bien ferme. Je dis aussi non pour toutes les fois où on m'a pas consulté, pour Nice, pour Barcelone. Je dis non également pour ceux que l'on a fait voter et revoter jusqu'à ce qu'ils disent oui. Pour les peuples à qui on n'a jamais demandé leur avis, pour tout cela, pour moi, c'est non. Salut.
Voilà, j'enseigne l'économie et j'appelle pour mentionner l'existence d'une incohérence logique dans le traité constitutionnel européen sur la question centrale, celle de l'emploi. Bon, bien sûr, c'est l'objectif officiel mis en vente, mais le TCE interdit les moyens en fait d'y arriver. Pourquoi ? D'abord, il interdit le recours à la politique budgétaire. En temps de crise, il faut savoir que les pays riches n'ont jamais trouvé mieux de faire pour redonner la croissance, pour redonner l'espoir aux acteurs économiques, aux consommateurs, aux investisseurs, que d'endetter l'État. L'État n'est pas un agent comme les autres, il a toute son existence pour rembourser, étant donné qu'il ne meurt jamais. Alors nous avons décidé en Europe de ne jamais dépasser 3% de déficit pour chaque État. Dès qu'il est à 3%, il s'arrête. C'est une loi scientifique, c'est quelque chose qui a été prouvé, démontré, calculé. Non, non, c'est la décision prise en 1993. Aujourd'hui, les Américains ont un déficit de 6%, les Japonais de 7%, les Hongrois de 9%, etc. Deuxième renoncement, la politique monétaire. Elle est fondamentale dans un pays riche parce qu'on ne peut pas consommer, investir, etc. sans crédit. Que va-t-il se passer ? Eh bien, la BCE sera encore plus légitime pour remonter ses taux d'intérêt, c'est-à-dire rendre le crédit plus cher et donc casser la croissance, dès que le chômage risque de baisser trop. Oui, ça fait à peu près, mettons, 7 à 8% en France. Ah oui, ça fait un seuil. Pourquoi ? Parce qu'elle croit en l'existence d'un un taux de chômage minimum pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Un taux de chômage minimum nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Je vous ai dit 7-8%, c'est le chiffre qu'ils retiennent actuellement. Et comme la Banque Centrale Européenne a retenu comme seuil d'inflation 2% ou moins, la boucle est bouclée. 2%, c'est pas un seuil scientifique non plus. C'est la Banque Centrale qui l'a retenu elle-même, qui l'a arrêté en toute indépendance. C'est leur choix, évidemment, mais on sait qui va payer les conséquences. Ce sera pas eux, ce sera les chômeurs.
Salut, c'est Patricia d'Albi. Écoute, Daniel, s'il y a une seule raison pour voter non à la Constitution, moi je l'ai trouvée. C'est la politique d'immigration. Je sais pas si t'as remarqué un truc. Pour mettre en place une politique sociale commune, il faut l'unanimité des 25 membres. Bonjour. Par contre, pour mettre en place une politique plus restrictive et surtout plus répressive sur l'immigration, il faut seulement une majorité qualifiée. Et avec ça, on ose nous parler de fraternité, l'Europe des peuples, mon œil, oui. Allez, ciao, bon courage, à après le déluge.
Bruno de Guadeloupe, un grand bonjour à toute l'équipe et merci. Ben, je vous appelle de là-bas, parce que nous y sommes les partisans du non. Aussi méprisé que chez vous par les médias, hein, RFO nous passe l'intervention de Chirac sur la Constitution pour les DOM effectuée par RFO Paris le jeudi 19 en direct, puis une ressucée le samedi 21, la même émission en différé, ça s'était jamais vu jusqu'à présent. Et l'autre organe d'info régional, France Antilles, le seul quotidien de Lille appartenant à R100, nous fait un spécial référendum samedi. Alors c'était pas mal, parce que samedi c'est un jour de grosse diffusion, supplément télé oblige, avec une question en première page, hein, en première de couverture, référendum, qui dit oui, qui dit non, 12 photos, et puis 12 photos d'interviewés, et à l'intérieur, 11 oui et un non. Voilà. C'est ça, qui dit oui, qui dit non. Et pourtant, ben, y a un collectif, un gros collectif en Guadeloupe de syndicats, d'associations, de citoyens qui mobilisent beaucoup. Mais bon, rien du tout. Nos présidents de région et de conseil général, socialistes tous les deux, prennent position pour le oui. Ils doivent espérer un strapontin lors de l'alternance possible en 2007. Enfin voilà, je voulais dire aussi aux habitants de la Guadeloupe que mardi 24 à 20h sur RFO, il y aura une émission Le Grand Débat avec, entre autres, Attaque Guadeloupe pour vous parler du nom. Voilà, salut.
Petite blague. Nous sommes sur le Tour de France. Un commentateur commente le Tour de France. Virage à gauche. Virage à droite. Virage à gauche. Virage à droite, c'était un rond-point.
Un petit message de Claude, de Belgique, pour vous dire que vous avez quand même de la chance, vous les Français, qu'on vous demande votre avis sur la Constitution. En Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays, ce sont les parlementaires qui votent oui, sans débat, étant entendu pour eux, comme pour Chirac et consorts, qu'on ne peut être que pour le oui. Alors sachez que si vous votez non dimanche, vous représenterez aussi des tas d'autres Européens à qui on n'a pas permis de s'exprimer et qui souhaitent eux aussi notre Europe. Loin d'isoler la France, un non permettrait au contraire de rassembler les citoyens européens prêts à construire une Europe plus humaine. Tant qu'on vous donne encore la parole, même si ceux qui vous l'ont donné ont cru au départ que le oui était acquis, tant qu'on vous donne la parole, et même si tout le monde sait que le décor mondial est déjà bien planté, tant qu'on vous donne la parole, profitez-en pour résister. Salut.
Docteur Balkenstein. Docteur Balkenstein.
Salut, c'est Daniel Mermel, à Bassi J'y suis avec Olivia Gesbert et François Ruffin. Oui, d'en bas, non d'en bas.
Flight number 2, arriving from New York.
Il est pas énorme le marché de Guingamp.
Oh non, c'est pas extraordinaire.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache vraiment sur Guingamp, à part en avant Guingamp?
Il y a le foot, le foot, le foot à Guingamp. Le stade, il doit y avoir 12 000 places, alors que Guingamp fait 8 500 habitants, quelque chose comme ça.
Et ça se remplit?
Ah oui, ça se remplit parce que Guingamp, c'est devenu le phare de, le phare sur le plan footballistique, comme on dit, de, bah, de toute, presque de toute la région. Et le pays de Guingamp est caractéristique par le taux de chômage. On n'a que 36% des foyers qui payent l'impôt sur les revenus. Il y a un Guingamp qui vit, un Guingamp notable, qui vit sur le passé. Les petites fortunes, la famille Charton qui avait le Monoprix, qui avait ou Festival, qui avait tous les grands commerces dans le temps. Beaucoup de personnes âgées. Je suis sûr qu'il y a des Guingampais qui ne sont jamais allés à Paris. Ils n'en ont pas besoin. Il y en a encore, on en trouve.
La taxe marché?
Oui.
Voilà, nous voilà au marché de Guingamp. Lui, il s'appelle Jean-Paul Auréjac, il est retraité, il était prof de gestion et il est militant pour le collectif Pour le Nom de Guingamp. Donc on va faire un petit tour à Guingamp et puis on ira faire aussi un petit tour à Maubeuge avec François Ruffin qui, comme Olivia, et ben voilà, s'est baladé avec son micro dans les marchés, mais pas pour faire des micro-trottoirs, ramasser des petites phrases qu'on colle comme ça les unes derrière les autres, non, pour essayer de faire des portraits, des croquis sonores de ces Français de l'autre côté du fossé, de l'autre côté de la fracture, les Français d'en bas qui sont pris la tête et qui continuent de se prendre le chou avec cette histoire de traité et qui disent des tas de choses intéressantes qui révèlent beaucoup de choses sur eux-mêmes, sur leur vie et sur leurs idées et sur leur doléance et sur leur dissidence. On s'approche d'un premier commerçant, un jeune marchand de fromage bio.
C'est pas facile à dire parce que personne n'en parle. Enfin, je sais pas ce que t'en penses.
Pour vous, c'est comment là, le commerce? C'est difficile en ce moment?
Oui, bien sûr, c'est très difficile.
Ouais, c'est difficile, ouais. Financièrement, c'est dur, mais c'est aussi un... Ben nous, on est producteurs de fromage, et c'est une belle vie, mais c'est dur, quoi. Ouais.
Parce que tout ce qu'on cherche à faire, c'est en fait nous enfoncer, quoi.
Oh, mon voisin a 90 hectares en céréales et en maïs. Il a 250 000 francs de prime par an, et nous, on a 20 000.
Qu'est-ce qui fait la différence?
La PAC.
Politique agricole commune. Voilà. Hein. Bah pourquoi ne vous êtes pas, vous, la politique agricole commune, parce de la
que,
même manière?
Parce qu'on est en bio, qu'on n'a que de l'herbe et qu'on n'a pas de lobbying important. On n'a personne qui pousse à la roue pour nous, quoi.
Vous croyez que tout se passe à Bruxelles avec des lobbies qui poussent?
C'est pas moi qui le crois, c'est officieusement même des personnes de très haut placées comme le sous-préfet ou d'autres qui le disent en réunion. Mais toujours officieusement, jamais officiellement.
Vous l'avez lu, cette constitution?
Ouais, je l'ai lu. J'ai lu les paragraphes qui m'intéressaient, les paragraphes sur la justice et tout ça, j'ai pas forcément bien compris puisque je suis pas dedans. Donc j'ai lu pas mal de paragraphes sur l'économie, j'ai lu les paragraphes sur tout ce qui était l'environnement, j'ai lu ce qui m'a bien fait rigoler d'ailleurs.
J'ai pas grand chose,
y a rien du tout même. On peut dire il y a rien du tout. J'ai lu les paragraphes sur le social, évidemment. Puis voilà quoi.
Vous en avez retenu quelques mots? C'est plutôt un état d'esprit.
Concurrence libre. Et non faussé. Ça revient assez souvent. Donc, et c'est à peu près les seules choses qu'on comprenne sans revenir trois paragraphes en arrière ou retourner deux paragraphes en avant. Donc, concurrence libre et non faussée, oui, je l'ai retenu ça. On le retient facilement parce qu'il revient souvent quand même.
Qu'est-ce qui gronde là?
Le gros froid.
Vous arrivez à vous y retrouver là dans les messages des partis politiques? C'est vrai qu'il y a un échiquier qui est assez brouillé quand même ce référendum.
Quoi. Non, moi je me retrouve pas du tout dans rien de ce qui est dit. Et de toute façon, depuis déjà pas mal de temps, j'écoute très très peu les informations, en tout cas jamais les informations télévisuelles, un petit peu la radio, mais même avec l'information à la radio, j'ai du mal aussi. Parce que je m'y retrouve pas. Ouais, on veut nous faire croire ce qu'on a envie de nous faire croire. Et pas forcément. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins d'objectivité. Et que c'est de plus en plus des choses lancinantes comme un ruban qui se défile et puis voilà quoi.
Vous vous sentez pro-européen ou pas?
dans le partage des populations et des peuples, ouais. Énormément, ouais. Dans l'idée générale, mais pas dans l'idée qu'on veut s'en faire, je pense. Pas dans la réalisation économique. Dans la réalisation humaine, ouais, c'est un truc qui est vachement intéressant, quoi.
Bonjour.
Allez-y, hein.
Bah, ce serait pour du fromage. Hein. Ouais. Tu as une bonne idée. Qu'est-ce que tu veux?
T'as fait la bonne porte.
Le morceau que vous avez là.
Celui-là, le cas.
Et puis peut-être un petit rond.
Voilà, ça c'est un petit, une petite première à Guingamp avec ce marchand de fromage bio. Et on va aller faire un tour tout de suite à Montreuil. À Montreuil, c'est un grand marché, celui de la Croix de Chavaux. Et là, c'est une autre ambiance et d'autres couleurs. C'est un autre moment aussi de la semaine. C'est dimanche à Montreuil, donc c'est beaucoup plus de monde. C'est beaucoup plus animé que Guingamp, où c'est assez peinard. Mais ça n'empêche que le sujet, pratiquement le seul et unique sujet, c'est évidemment ce que vous savez.
J'ai eu avec des amis des discussions politiques comme j'en avais pas eu depuis 10-15 ans, sur le fond d'un certain nombre de choses, parce que ce qui se passe autour du référendum remet en cause un certain nombre d'interrogations. On était dans une situation, je crois, où on était beaucoup dominé par le fatalisme, par l'idée on a une marge de manœuvre étroite pour pouvoir agir. Et aujourd'hui, ce référendum montre que sur des grands sujets de société, c'est important d'en discuter. En plus, c'est une occasion de revisiter pour beaucoup de gens ce qu'ont été 40 ans d'Europe qui se sont faits sans eux. À un moment donné, ce qui prime pour certains, c'est leur capacité à gouverner. Et pour d'autres, c'est la mise en pratique des valeurs. Ça veut dire qu'ils pensent qu'il est pour le oui-oui. Parce qu'on ne pouvait pas négocier autre chose. Moi, je pense qu'à certains moments, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Donc, même si on est pour le non, et même si c'est difficile, c'est important de mettre en rapport ces valeurs. Et j'ai l'impression qu'un certain nombre de mes amis, ceux qui étaient avec moi dans des cabinets ministériels, par exemple, ont abandonné leurs valeurs pour mettre en avant ce qui est la gestion pure et simple et l'art du compromis. Moi, je suis pour gérer des compromis, mais pas des compromissions. C'est ce que j'essaye d'expliquer à mes amis.
Alors, vous m'avez pas dit ce que vous faites dans la vie.
Je m'occupe de formation des enseignants. Je dirige un institut universitaire de formation des maîtres.
Et vous avez été dans des cabinets ministériels?
Oui,
à quel titre?
Je m'occupais des questions de violence et de citoyenneté au ministère de l'Éducation nationale.
Quand ça, sous
Langue, Mélenchon et pendant le gouvernement Jospin, oui.
Là, c'est vrai qu'avec vos amis socialistes, il doit y avoir un sacré fossé, non?
Pas tous. J'en retrouve beaucoup dans le camp du non. Et ce qui me semble important, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, dans le débat politique, on a l'art de la négociation et on a l'art de la discussion. Il y a un argument que moi, je ne supporte pas, c'est de dire qu'il n'y a pas de plan B. Parce qu'on m'a appris, moi, dès le début, on m'a appris, quand j'étais en première année de Sciences Po, avec un certain nombre aujourd'hui de gens qui prônent le oui, que quand on prenait une décision, il fallait toujours travailler sur la position alternative, sur le projet de substitution. Et je suis peiné de voir des gens mentir purement et simplement. Delors a eu l'honnêteté, effectivement, lui, de dire la vérité. Quand on prend une décision, on prévoit toujours ce qui se passerait si elle ne peut pas être mise en valeur. Donc cette discussion sur plan B ou non plan B, moi, me navre, parce que c'est du mensonge pur et simple. Bien évidemment, quand on prend un décret, quand on prend une décision, quand on prend une loi, on a toujours le projet de substitution si ça ne peut pas passer. C'est le béaba de la gestion politique. Et on prend vraiment les gens pour des imbéciles quand on dit qu'il n'y a pas de possibilité de renégociation. C'est l'art de la politique. La politique, c'est négocier. Voir ce qu'est le rapport de force, voir ce que sont les images. Et c'est pour ça que ça a repolitisé la discussion sur le traité, parce que ça montre aux gens les enjeux de la marge de manœuvre, les enjeux de la renégociation.
Le mouton noir a bien compris, l'homme est un loup pour le mouton.
Et quand soudain le mouton grogne,
les loups s'appellent pour un...
Non ! Le seigneur n'est pas mon berger, je suis le mouton de personne.
Vous allez diffuser cette cassette toute la matinée ?
Oui, oui.
Oui,
oui, oui.
Alors, c'est quoi ? C'est le DVD des partisans du non ?
C'est sur la chanson du groupe Joli Môme, un clip qu'a fait une militante du Comité du Nom, Dominique Cabrera, qui est une cinéaste de Montreuil. Donc c'est un produit Comité du Nom montreuillois. Et donc on diffuse ça sur le marché. On peut avoir des arguments sérieux et les mettre en chanson. Je vais vous dire, tous les grands mouvements du peuple français ont toujours été rythmés par des chansons. La Révolution française et le Sahara, la Commune et le temps des cerises, je crois que ça fait partie effectivement des traditions du peuple français, qu'à des grands moments d'histoire, il y ait des chansons.
Et quand soudain le mouton grogne,
les loups s'affolent pour un.
Non ! Voilà.
C'est un nom de progrès,
ah bah,
un nom
d'avenir. De toute façon, moi, je vote pour non. Hein. Je le dis franchement. Hein, parce que jusque maintenant, c'est zéro. Pour les personnes âgées, c'est zéro. Si on dit comme ça qu'on va donner un coup de main aux personnes âgées, c'est des gens handicapés, mais des gens comme nous. Moi aussi, je suis handicapée, hein, et j'ai rien. Et j'ai avec ma petite retraite 320 euros par mois.
320 euros.
Oui.
Hein. Vous vivez avec 320 euros par mois.
Avec ça, je peux y aller.
Il y en a beaucoup, hein,
alors. Hein, ben voilà. Et j'ai travaillé. Bon, ben, j'ai pas fait ma carrière complètement, parce que j'ai été accidentée. Mais j'ai quand même travaillé 18 ans. Hein, 18 ans de présence. J'ai 4 enfants. Hein. Mon mari est décédé, ben, malheureusement. Hein. Bon, ben, je suis là toute seule. J'ai plus d'enfants, j'ai plus personne. Hein. Bon, aujourd'hui, pour demain, étant donné que j'ai eu un grave accident, je suis partie quand même 4 mois d'ici pour faire ma rééducation. Ah ben vous savez, mon bénéfice, il a été petit parce qu'il a fallu que je rembourse la mutuelle.
Et comment vous faites pour vivre avec 320 euros par mois?
Des fois, je mange une tartine d'ail du café. Je ne mange pas de la viande tous les jours, monsieur. D'accord? Parce que tout ce qu'on nous dit, bon ben, hein, c'est minimum.
Changement de décor, changement de ton, voilà, 320 euros par mois, et souvent la tartine dans le café, ça c'est le Nord, et on est à Maubeuge, et évidemment, c'est pas facile de convaincre cette dame qu'il faut qu'elle vote oui ou que son nom est un nom rétrograde et pourri, évidemment. C'est difficile de lui dire ça. En tout cas, c'est une chose que ne lui dira pas Alain Groine, que François Ruffin a rencontré sur ce marché de Maubeuge.
Et madame, c'est le nom de gauche au projet de constitution, parce qu'on veut l'Europe sociale, pas l'Europe des banquiers.
Donc là, on se trouve au marché de Jeumont.
Alors vous dites. Pour 50 ans, hein.
Vous dites le nom de gauche, c'est qui le nom de gauche alors?
C'est les communistes, c'est tous les progressistes quoi en fait. Hein. La CGT, il y a la FSU, il y a ATTAC, il y a la Confédération Paysanne. Puis il y a des citoyens qui viennent d'horizons divers mais qui sont à gauche. Alors y compris qu'on insiste sur le nom de gauche. Parce que bien sûr, il n'a rien à voir avec le nom de Le Pen, quoi. Le Pen, c'est Le Pen, nous, c'est nous.
Et comment réagissent les gens? Qu'est-ce que vous sentez durant cette campagne?
Bah, ici, dans le coin, ça réagit plutôt bien. Hein. J'ai vu hier au porte-à-porte à Maubeuge, il y a une très grande majorité de gens dans la région qui ont l'intention de voter non, comme ils l'avaient fait d'ailleurs avec Maastricht. D'autant plus que, bon, depuis Maastricht, enfin le traité de Maastricht comme le traité de Nice, les gens en ont fait l'expérience dans le coin. Ça n'a pas arrangé les choses. Au contraire, ça les a aggravés. On est quand même record... l'arrondissement de la Vénois tient le pompon pour ce qui est du taux de chômage dans la région Nord-Pas-de-Calais. Je crois que c'est la même chose pour la France, quoi.
C'est-à-dire, le taux de chômage, il est de combien ici?
Pas loin de 16%. Il y a 17 000 chômeurs officiellement, mais on a des villes comme Maubeuge, par exemple, où le taux de chômage, mais pas seulement Maubeuge, est à 28-30%.
Alors, est-ce que dans ce contexte-là, l'Europe, c'est pas une chance?
Ben, jusqu'à maintenant, on peut pas dire que ça a été une chance. Hein. Ça peut l'être demain. Mais pas avec le projet qu'on nous propose là de ratifier, parce que il n'empêche pas les licenciements, il ne s'oppose pas aux délocalisations, il ne s'oppose pas aux privatisations. On a déjà beaucoup souffert dans la région, on veut pas en rajouter. Nous, on veut l'Europe du plein emploi et du progrès social. C'est pas ce qu'on nous propose là, donc on vote non. Mais on vote non, c'est un non constructif, parce qu'on veut une autre construction de l'Europe qui tienne compte des besoins des gens. Et chez nous, dans la région, la priorité, c'est l'emploi.
Quel lien vous faites entre la construction de l'Europe et la mauvaise situation économique ici?
Bah nous ici depuis, mes souvenirs depuis une quarantaine d'années, c'est la destruction d'usines qui étaient des fleurons de l'industrie locale. Toute la sidérurgie pratiquement, une partie de la métallurgie, presque toute la machine à outils, une partie de la céramique, sur fourmis c'est le textile et la confection qui ont pratiquement disparu. Donc c'est l'Europe, c'est un cortège de friches industrielles de centaines d'hectares où avant il y avait des ouvriers qui travaillaient, puis comme Usinor à Louvral, qui était la grande entreprise avec le haut fourneau le plus moderne d'Europe. Et puis aujourd'hui, il nous reste des friches. Alors pour autant on cultive pas la sinistrose, mais c'est une raison supplémentaire pour dire nous on veut une Europe qui donne du boulot à nos jeunes. Voilà.
Et hop, on fait un saut à travers notre hexagone et on retourne à Guingamp et où, avec Olivia, on rencontre Monsieur Georges qui, comme vous l'ignorez peut-être, est adjoint au maire de Pabu. Pabu, ouais, c'est un patelin qui s'appelle Pabu à côté de Guingamp et Monsieur Georges a un point de vue.
Et madame, c'est le nom de gauche au projet de constitution, parce qu'on veut l'Europe sociale, pas l'Europe des banquiers.
Donc là, on se trouve au marché de Jeumont.
Alors vous dites, pour 50 ans, hein.
Vous dites le nom de gauche, c'est qui le nom de gauche alors?
C'est les communistes, c'est tous les progressistes quoi en fait. Hein. La CGT, il y a la FSU, il y a ATTAC, il y a la Confédération paysanne. Puis il y a des citoyens qui...
Voilà, alors nos camarades techniciens aiment tellement le maire ou ce militant qu'ils le repassent. Mais ça, c'est Maubeuge. Il faut quand même qu'on fasse un effort et qu'on aille à Guingamp, où l'on va rencontrer, comme je vous l'ai annoncé, Monsieur Georges, qui est l'adjoint au maire de Pabu. Et le voici.
Comme ça pour 5 euros.
Très bien, c'est cadeau.
Voilà. Monsieur Georges est quand même adjoint du maire de Pabu. Bon, comme on classe à droite, ça peut être intéressant. Ouais. Je crois d'avoir votre avis, monsieur Georges.
Je pense que moi, je ne peux être que favorable à l'Europe, dans ce sens que si on reste tout petit, on n'a plus de moyens de vis-à-vis de soit de la Chine maintenant. Avant, il y avait les États-Unis, maintenant la Chine de l'autre côté, la France au milieu, tout seul, on ne peut pas grand-chose. Déjà, l'Europe, c'est petit, donc si on n'arrive pas en plus à harmoniser nos différents pays latins, c'est un peu triste. Quoi.
Est-ce que vous avez réussi à lire la Constitution, enfin ce texte qu'on vous propose?
J'ai lu. Bon, c'est vrai que tout n'est pas parfait dans la Constitution, mais déjà quand on était à 5, on avait du mal à se mettre d'accord sur un texte commun. À 25, il est évident qu'avoir un texte parfait, on n'y arrivera jamais.
Cette Constitution, pour vous, elle est libérale ou sociale?
Bien sûr, libérale, mais il y a quand même aussi des ouvertures sociales, des trucs sociaux dedans, mais tout ne va pas se faire en 8 jours. Bon, c'est vrai qu'on on est un pays quand même par rapport à d'autres qui ont des avancées sociales que les autres n'ont pas, et puis que tout le monde s'aligne, c'est vrai que nous, on a plus à perdre qu'à gagner, si vous voulez, dans les avancées. Mais si, globalement, dans le futur, on veut avoir une Europe solide, il faudra bien des compromissions de chaque côté.
Vous étiez chef d'entreprise?
Non, je travaillais dans une grande entreprise.
Oui. Vous étiez cadre, je dirais cadre sup dans grande entreprise.
Oui. Une entreprise qui était plus qu'européenne, mais qui est internationale depuis, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Donc, pour elle, ça ne change pas grand-chose.
Hein. C'était quoi l'agroalimentaire?
Non. Dans la téléphonie.
Et quand elle parle de cette constitution de concurrence libre et non faussée?
Il n'y a pas de 36 solutions dans une entreprise. Ou on avance ou on crève. Il n'y a pas d'alternative. Hein. On se fait manger par d'autres. En quel cas, si on est mangé par un Français ou par un autre, ça, c'est le moindre mal. Mais on est très aussi bien mangé par un Chinois que par un Américain. Ça a toujours été la loi du marché. C'est pas d'alternative possible dans ce domaine.
La concurrence libre et non faussée, en réalité, c'est une déréglementation. c'est sortir des réglementations qui existent à Cancor actuellement, s'en débarrasser de plus en plus pour arriver à cet idéal de concurrence libre et non faussée, c'est-à-dire un peu à ce... Oh, moi, je vais utiliser mon vocabulaire, hein, au capitalisme débridé, un peu. Non ?
C'est une loi, je crois, qui peut donner à l'Europe un moyen de discuter face aux grands.
Les grands, c'est qui ? Les États-Unis ?
Les États-Unis, la Chine, l'Inde, je connais très bien. Là, quand on voit qu'ils sont 2 milliards d'habitants et qu'on voit que l'Europe, combien on sera, vous avez tout compris.
Donc ce sera oui pour vous, cette
France. Ah, moi, c'est oui, oui. Oui, bon, il y a aussi, je ne suis pas d'accord avec tout, et loin de là. Mais je trouve beaucoup plus de positif que de négatif. Et que si on n'avance pas, si déjà on commence à freiner aujourd'hui, on n'améliorera pas. Parce qu'on va rediscuter, on est parti pour... bon, vous voyez, déjà, dans une commune, le temps qu'on, ou une intercommunalité, le temps qu'on mette à prendre une décision, quand vous transmettez ça aux 25 pays, avec des politiques différentes, etc., c'est reparti pour, allez, je dirais, minimum 10 ans, encore en étant optimiste.
Marche bien, hein ?
Pour faire les interviews ?
Ouais, sur le référendum.
Ah ouais. Et moi c'est un nom en direct, c'est
clair.
Non
direct, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est qu'est-ce qui vous a décidé?
Déjà là, au niveau social, on commence déjà à suivre d'autres pays, c'est-à-dire on descend déjà vers la France, c'est-à-dire la France c'est un pays au niveau social, rien à dire. Là on commence à éliminer plein de choses. Et si on vote lui encore, ça va être encore catastrophique. Au niveau social, on commence déjà à perdre plein de droits. Il y a pas mal de gens qui vont voter non, à mon avis. Non, j'y ai pensé avec, en fait, j'en ai parlé avec un peu avec ma mère pour voir ce qu'elle, elle allait voter. Et ma mère, elle était d'accord. J'ai parlé un peu dans mon entourage aussi. Les gens, ils étaient d'accord. Ils avaient un peu la même idéologie que moi. Même ma copine, moi, je lui dis, tu vas voter quoi? Elle me dit, je vais voter non. Alors qu'au début, elle me disait, je vais voter oui. Peut-être qu'elle a changé d'avis, là. Elle va voter. Entre temps, elle va voter non. Elle va voter oui. Allô? Ouais, ça va? Je te dérange pas. Et donc, je voulais savoir, tu votes non, toi? Ouais, ouais. En fait, tu te fies aux médias. Donc, elle a un petit avis maintenant, plus pour le oui. Ouais, donc voilà. Bye. Donc, en fait, là, elle repenche un peu sur le oui, parce que, en fait, elle est dans la communication. Elle est dans la télé, donc elle a fait quelques stages. Elle fait relations presse, relations publiques. Je crois qu'elle va voter oui, à mon avis. Là, je vous dis, honnêtement, les gens, on peut pas savoir. Ouais, jusqu'à la dernière minute, ça reste le suspense. Les gens, ils disent oui, ils disent non. Non, mais moi, je vais pas changer d'avis. Honnêtement, je vais pas changer d'avis parce que je trouve déjà que la France, elle doit déjà régler ses problèmes déjà internes avant de commencer à dire au niveau même, au niveau travail, au niveau embauche et tout ça. Si on se retrouve aujourd'hui à créer nos propres entreprises et à partir faire des marchés et tout ça, c'est parce que la main d'œuvre elle vient de l'extérieur, des pays d'Europe qui viennent de rentrer, qui peuvent travailler avec un salaire moyennement le SMIC et ne rien dire. Alors que nous, on a une expérience derrière nous en France de 15 ans, dans un métier où on a fait une formation, on a fait machin, et on vaut plus rien dans le marché. Et ça va être de pire en pire. C'est-à-dire là, avec les pays qui vont rentrer comme la Bulgarie, comme machin, comme Bidu, ça va être catastrophique. Ça concerne l'Europe, ça concerne la France, mais en même temps, ça concerne pas vraiment la France pour les Français. Ils ont d'autres chats à fouetter.
Ça paraît loin.
Et surtout avec ce qui se passe en ce moment, tous les grèves, tous les machins, tous les salaires qui s'envolent, tous les lundis de Pentecôte là qui ça, c'est, ça tue.
Les gens, le quotidien des gens et ça,
oui,
ça les touche.
Oui, ça les touche. Honnêtement, même moi, je suis entrepreneur, j'ai ma société, mais comment je vois les choses, je me dis, la France d'il y a 10 ans, c'est pas la France d'aujourd'hui. On pense même plus à voter pour d'autres pays, on s'en fout. Maintenant, on veut régler d'abord nos problèmes. Najwa Karam, c'est une Libanaise.
On continue le tour.
Et ça déjà.
L'UMP est là.
Vous étiez déjà là-bas.
Bon, moi, je suis pas de Montreuil, je suis de Saint-Ouen. Bon, je vois comment ils laissent nos villes à l'abandon. J'ai pas vraiment envie de voter oui. Enfin, voter non, je veux dire. Je suis responsable des jeunes adjoints de Saint-Denis UMP. On tourne un peu sur tous les marchés, sur toutes les villes. On est là à présent un peu partout. On est assez nombreux.
Ah,
Mais je pense qu'en travaillant bien sur le coin, on peut faire un score.
Alors vous leur dites quoi? C'est quoi vos principaux arguments?
Oui, je voudrais bien savoir c'est quoi.
Quoi?
Bah, les arguments, je voudrais bien connaître
les arguments.
Vous êtes pour le nom, vous distribuez pour le nom là?
Oui, ouais, moi je distribue pour le collectif Montreuil pour le nom. Ouais.
Mais vous êtes collés l'un et l'autre sur le marché.
Oui, parce qu'il est venu me voir. Il y a Louis qui traque pour les coller à la ceinture.
Non, au départ c'est toi qui es venu. Ensuite, les communistes étaient déjà là.
Quand j'arrive et je vous demande est-ce qu'il y a plus de progrès social dans cette constitution par exemple? Imaginons, moi je suis là, je fais mon marché, j'aimerais savoir ça.
Écoutez, je vais vous dire une chose. D'accord, il y en a qui disent c'est libéral, tout ça, mais franchement, est-ce que vous pensez. Marie-Georges Buffet, Jean-Marie Le Pen, De Villiers, Maigret, Pasqua, Besancenot vont se mettre ensemble pour aller là-bas à Strasbourg, établir une nouvelle constitution. Quelle base? Comment? Franchement. Nous, on veut une Europe politique, une Europe forte vis-à-vis, par exemple, de la Chine, de l'Amérique. Il faut qu'on existe, il faut qu'on soit unis pour qu'on existe à travers le monde, c'est comme ça, c'est tout.
C'est marqué en gras dans notre constitution, c'est marqué en gras sur les...
Vous ne proposez rien, voilà, non, vous ne voulez pas d'Europe, vous voulez la détruire.
C'est la vision de la démocratie.
Là, il y a un problème de temps de parole. Monsieur le partisan du non, répondez.
Non mais par exemple tu parlais tout à l'heure des États-Unis. Moi je suis désolé, c'est marqué dans la Constitution que de toute façon avec la Constitution l'Europe sera d'autant plus enclavée dans l'OTAN. Et je suis désolé.
Par rapport à l'appui aux États-Unis, moi je vais vous donner un exemple. Vous dites l'OTAN.
Autre partisan du oui.
Oui. Donc je vais vous donner un exemple par rapport aux États-Unis. Vous me parlez de l'OTAN qui est inscrit dans la Constitution, etc. Ce qui est pas faux. Vous savez pourquoi Jacques Chirac a pu dire non à la guerre en Irak sans il a pu défendre cette position face au monde entier. C'est moi pour moi, c'est grâce à l'euro. Si on avait eu le franc à l'époque, on aurait été dévalué. Les banques américaines nous auraient attaqué sur le marché financier. On aurait été dévalué. On aurait été en crise. Et on aurait dû un petit peu mettre un bémol.
C'est un
désavantage de l'Europe, quand même.
On a des avancées énormes. On aura un ministre des Affaires étrangères européen. On aura un président européen.
Ça, c'est un argument intéressant. Je pense que c'est exactement le même que celui du PS. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'une alliance contre nature entre la gauche et l'extrême droite, qui n'est en réalité pas une alliance. C'est une fiction construite par la propagande de l'UMP et du PS. Par contre, une alliance entre Hollande et Sarkozy, on l'a vu en photo, puisqu'ils ont posé volontairement ensemble pour la couverture d'un magazine de très grande diffusion. Ça, c'est une véritable alliance. Le PS suit l'UMP, je ne vous le fais pas dire. Cet accord s'est exprimé de manière magnifique.
Parce que c'est l'intérêt de la France. C'est l'intérêt de la France de faire l'Europe.
Ah donc, vous êtes nationaliste?
On défend l'intérêt de la France, c'est pas être nationaliste.
Il faut que je continue le marché, mais je reviens vous voir parce que l'engueulade, elle est vraiment savoureuse. Pourquoi vous avez mis votre cravate dans votre poche?
Pourquoi j'ai mis dans la poche? Parce que après je vais à une soirée, je la mets et j'aime pas trop la porter, je suis obligé de la porter tout à l'heure.
À 13h, vous allez à une soirée?
Un cocktail l'après-midi.
C'est chic, UMP.
Non, c'est pas du tout UMP, c'est par des amis, je suis invité, c'est un truc privé. Voilà.
C'est pas un cocktail du
métro. Mettons la laine sur le dos, j'ai plus que la peau sur les os.
Mais non, mais pas sa cravate dans sa poche, pas plus que son drapeau, puisqu'on a le courage quand même de venir discuter dans la rue, au marché. Là, en l'occurrence, à Montreuil, ça change un peu de cet autisme hautain qui avait prévalu au début de cette campagne et qui était d'ailleurs l'esprit même de cette consultation. Ben voilà, le printemps démocratique a fait souffler un vent inverse. Et dont on entendra parler à nouveau demain dans la Bastille Suisse. C'était un reportage d'Olivia Gesbert et de François Ruffin. Merci à tous. À lire le livre de Raoul Marc Génard qu'on rencontrera peut-être demain si tout se passe bien. L'Europe et la trahison des élites aux éditions Fayard. Les informations concernant cette émission sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. Et puis je vous rappelle que dans quelques instants, à partir de 20h, nous serons au théâtre de Jazet pour le procès pour de rire, j'insiste, de Nicolas Sarkozy avec des dessinateurs, avec un certain nombre de personnes que vous découvrirez tout à l'heure. Ce sera au théâtre de Jazet, 41 boulevard du Temple. C'est dans le 3e à Paris, métro République. Et le numéro, c'est le 01 48 87 52 55. 01 48 87 52 55. On vous y attend tout à l'heure. Technique aujourd'hui, Céline Bonhomme et Patrick Henry. L'équipe de la Basse et J'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur de la Basse-Ugie Suisse, c'est le 0156 40 37 37, 0156 40 37 37, et le mail c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Dans 1 minute et 6 secondes de pub, vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari. Nous, on se retrouve demain à 17h pour la Basse-Ugie Suisse. Salut.